Bonjour à chacune et à chacun. Ce matin, nous allons retrouver le livre de Daniel. Donc, je t'invite à trouver Daniel chapitre 3 dans vos Bibles. Et c'est à la page 571 dans les Bibles blanches de l'Église. 571, Daniel chapitre 3. Et avant de donner le passage, je vais prier. Notre bon Père Céleste, merci pour cette parole de ce récit vieux de 2600 ans. Merci de ce qui parle encore. Merci de ce que toi tu parles par ta parole aujourd'hui. Et notre Père, nous voulons entendre ta voix ce matin, cette voix qui retentit au travers des siècles. Nous avons besoin de cette parole. L'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de ta bouche. Et nous avons besoin ce matin de ta parole. Fais-nous paître par cette parole. Fais-nous du bien. Corrige-nous, instruis-nous. Équipe-nous pour la vie chrétienne dans la vie de tous les jours. Et je demande vraiment, Seigneur, de m'aider à parler de manière claire et fidèle ce matin. Nous te demandons ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Au Daniel chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressé. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Roi, puisses-tu vivre toujours ? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration dans la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adore pas la statue en or que tu as dressée. » Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Il répondit au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez !» Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les chevaux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qui ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors même si chaque époque de l'histoire humaine a été troublée, je pense qu'on est particulièrement conscient que notre époque, juste en ce moment, a l'air bien troublée. Cette semaine encore, on a eu notre lot d'images terribles du Moyen-Orient. Et dans le sud de la France, il y a eu cette attaque de quelqu'un qui a attaqué des soldats, cette personne qui disait « haïr la France » et haïr les juifs, et on a vu des discours politiques, des tentatives de remettre les choses en place. Alors Daniel et ses amis vivaient aussi une époque bien troublée, bien difficile à vivre en tant que croyant fidèle à l'Éternel, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce livre, ce récit, nous aide nous aussi à vivre notre époque. avoir à notre époque la perspective de l'Éternel sur ce qui se passe. Ce livre nous donne sa perspective, la perspective divine. Et par ce livre, le Saint-Esprit nous équipe pour vivre pour lui, aujourd'hui avec nos yeux fixés sur le Seigneur. Bien qu'il y ait des circonstances troublantes. Alors ce passage nous parle de l'idolâtrie, c'est même très clair. C'est de l'idolâtrie organisée, parrainée, sponsorisée, imposée par l'État du roi babylonien. Daniel, l'auteur de ce livre, veut que ses lecteurs soient bien perspicaces quant à la nature de cette idolâtrie. Et il veut qu'ils soient perspicaces pour qu'ils tiennent bon, pour qu'ils restent fidèles à l'Éternel. Il veut que ses lecteurs aient la conviction qu'ils peuvent y résister parce que leur Dieu sauve son peuple. Leur Dieu sera avec son peuple. Il peut les sauver de la main d'un homme, d'un régime orgueilleux. Et ça, c'est le même message pour nous ce matin. Nous sommes les lecteurs de Daniel, 2600 ans plus tard. C'est le même message pour nous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Et ce message de Daniel, on l'a vu au fil des semaines, ce message nous aide à chanter le cantique de l'Éternel en terre étrangère, un peu comme Daniel et ses amis, et nous vivons nous aussi en terre étrangère. On attend le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas encore là. On l'attend avec impatience. Et en attendant, on vit en terre étrangère. Et ce passage nous aide à vivre, à chanter pour la gloire de l'Éternel, même dans cette situation-là, même dans les situations troublantes. Donc on va commencer avec cette question de la perspicacité. C'est le premier point, vous le voyez sur les polycopies, sur les feuilles de champ. Soyons perspicaces. L'idolâtrie de l'État est insidieuse. Et je pense au fil de ce récit, Daniel veut que nous soyons clairs, que nous voyons de manière claire que l'idolâtrie de l'État est vraiment ridicule. Peut-être lors de la lecture de ce passage, vous avez constaté toutes les répétitions. On pourrait dire que pourquoi est-ce qu'il a répété tant de fois ces choses ? En fait, il a répété tant de fois ces choses parce qu'il veut nous montrer que ce qui s'est passé, ce que Nabuchodonosor a fait, était vraiment ridicule. Au verset 1, nous disons qu'il s'agit d'une image que Nabuchodonosor a faite. Il s'agit donc de quelque chose qu'il a fabriqué lui-même. Il s'agit d'une image d'origine purement humaine. Sans doute sculptée du bois couvert de l'or. Et Daniel accentue ce point en disant que Nabuchodonosor l'a dressé dans la vallée de Dura, donc dans la banlieue de Babylone. Et ce petit mot « dressé » sert de refrain. On l'a vu plusieurs fois « dressé », il a dressé. Il s'agit d'une idole d'origine humaine. Et donc, c'est ridicule. Nabuchodonosor est en train de créer une religion humaine de toutes pièces, centré sur l'homme, à la gloire de l'homme. Si on pense au chapitre précédent qu'on a fait il y a quelques semaines, il y avait ce rêve avec une statue avec la tête en or. Et dans un sens, on peut peut-être penser que Nabuchodonosor est en train de lutter contre ce rêve qu'il a vu. Il veut avoir un royaume tout en or. Il veut que son royaume perdure. Il lutte un peu contre le Dieu vrai. Par cette statue. Ensuite, il rassemble tous les fonctionnaires de son royaume, de son empire, tous les hommes qui ont de l'influence, tous les hommes qui ont du pouvoir. Verset 2. Le roi Nabuchodonosor fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée.
ces fonctionnaires viennent de tous les pays, de toutes les provinces que Nebuchadnezzar a conquis lui-même. Il a fait pour les unir dans une expérience religieuse commune. Il ajoute la musique. Et c'est vrai, c'est fou comment la musique peut donner un sentiment aux gens, des frissons. Elle peut transformer un événement banal en lui accordant de la grandeur, en communiquant une sensation spirituelle. Soit dit en passant, c'est pour ça que à l'église, on veut centrer les choses sur les paroles. La musique est là pour nous aider à nous centrer sur les paroles et non pas pour nous donner une expérience religieuse, spirituelle. On voit ici que la musique de Nebuchadnezzar est là pour enrober une cérémonie creuse d'une spiritualité. Et qu'est-ce que ces hommes intelligents doivent faire? Ils doivent se prosterner devant un morceau de bois couvert de l'or. Ils doivent mettre de côté l'intelligence, ils doivent mettre de côté la conviction personnelle et suivre l'ordre du roi de peur d'être mis à mort, d'être jeté dans cette fournaise ardente. On ne joue pas avec le méchant Nebuchadnezzar. Donc nous avons ici affaire à l'idolâtrie, c'est-à-dire l'adoration d'un faux dieu, d'un Dieu qui n'est pas le créateur de l'univers, un Dieu qui n'est pas l'éternel, Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'agit de l'idolâtrie sponsorisée, parrainée, imposée par l'État. C'est du totalitarisme. Tout le monde doit s'y conformer. Tous les peuples, toutes les nations, sans exception, sous menace de mort. Dans une fournaise ardente. Un système basé sur la peur. On voit ici que ces fonctionnaires s'y sont conformés. À leurs yeux, Babylone, si je puis dire, valait bien une messe. Ce que Daniel décrit ici est monnaie courante dans l'histoire de l'humanité. Et en cela, je pense que ça nous aide tous, ça aide tous les chrétiens de tous les temps. Depuis que l'homme s'est rebellé contre son créateur, depuis ce qu'on voit sur les premières pages de la Bible, l'homme doit s'organiser lui-même. Et c'est franchement difficile d'organiser, de rassembler, d'unir, de gouverner les hommes, ces hommes qui sont si rebelles. Des hommes sans loi, des hommes égoïstes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater dans notre propre pays. Il y a des Bretons, des Franciliens, les Alsaciens, les Normands, il y en a qui sont plus de gauche ou de droite, il y en a qui sont plus de confession catholique ou protestante, athée, juive, musulmane et ainsi de suite. Et pour éviter le chaos, chaque société, chaque nation doit chercher l'unité. Chaque société, chaque nation essaie de rassembler, d'unir des personnes très diverses, des peuples très divers. Et pour le faire, il faut captiver un peu les cœurs et les esprits. Il faut unifier les peuples autour de valeurs communes, d'idéaux, de rêves. Et du coup, le pouvoir politique puise dans la religion pour le faire. Alors, pas forcément la religion organisée comme le christianisme, ou l'islam, ou l'hindouisme. Comme Nebuchadnezzar, il introduit, il crée de nouvelles idées religieuses, spirituelles, pour donner une foi commune au peuple. Dans l'Empire romain, il y avait le culte de l'empereur. On pouvait garder sa religion, mais il fallait quand même adorer l'empereur comme un dieu, comme un demi-dieu peut-être. C'était de l'idolâtrie imposée par l'Empire romain. Et les premiers chrétiens devaient faire face à ces choses et vivre de manière fidèle à Jésus-Christ dans ce contexte-là, ce n'était pas toujours facile. Plus près de nous, dans le temps, le communisme, une philosophie pourtant athée, a une idéologie quasi religieuse autour du sens de l'histoire. Il donne une espérance comme quoi l'histoire va vers un but, vers une société meilleure. Et de manière pragmatique, on l'a vu avec les régimes de Lénine, de Staline, de Mao, il y a souvent un culte de personnalité qui unit le peuple. On le voit aussi aujourd'hui en Corée du Nord. Un commentateur que j'ai lu raconte l'histoire d'une rencontre du Parti communiste russe dans les années 30. Et lors de cette rencontre, à un moment donné, quelqu'un qui parlait a mentionné le nom de Staline. Et tout le monde s'est levé pour applaudir. Mais personne, en revanche, n'osait s'asseoir. Et finalement, un peu par fatigue, un homme assez âgé a dit « Viens, bon, je dois m'asseoir. Vraiment, je suis fatigué. » Il fut arrêté le lendemain. L'adulation, l'adoration mêlée de la menace. Et curieusement, ça ressemble un peu au régime de Nabucodonosor. Le régime nazi a fait, pour faire passer des atrocités énormes, a conçu toute une idéologie sacrée, quasi religieuse, autour du mythe de l'homme aryan pur. Et ce régime a construit l'unité nationale en excluant des populations considéré comme impur. Et le nazisme a toléré aucune résistance. Heureusement, il y avait quand même quelques chrétiens qui ont résisté, mais qui ont parfois payé de leur vie. En Turkménistan, le premier président du pays, après la chute du communisme, a fait dresser une statue de lui-même, en or. Vous pouvez consulter, voir ça sur Internet. Je crois que c'est dans la ville capitale du pays. C'est une grande statue qui tourne avec le soleil. Et après sa mort, cette statue a été démantelée et reconstruite en plus grand encore. Parce que le culte de personnalité rassemble les peuples, religieusement, spirituellement. Et plus près de nous, dans nos États occidentaux, je pense qu'il faut dire que nous sommes bénis à plein d'égards. Parce que on vit dans un pays où il y a beaucoup de liberté. Et quand même, quoique imparfaite, une paix civile. Nous vivons un pays qui, dans l'histoire, jusqu'à un certain point, a été trempé dans les valeurs du christianisme. Mais même dans notre contexte, ici en Occident, ce passage nous parle. Il nous invite aussi à la perspicacité. Tout État, toute société a besoin de rassembler et de garder uni le peuple, un peuple si divers. Et c'est jamais une tâche facile. Et comme partout dans le monde, le pouvoir se réveille de la spiritualité pour le faire, pour unir le peuple. À l'époque de l'ancien régime en France, il y avait un roi, une loi, une foi, c'est-à-dire catholique à l'époque. Le pouvoir et la religion se trouvaient mêlés, avec parfois des conséquences désastreuses pour la clarté de l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons la République une et indivisible, avec une loi, avec une langue. Nous avons la loi de 1905 où les églises ont été séparées de l'État. Et dans l'ensemble, c'est une très bonne chose. Ces lois qui nous protègent de beaucoup d'abus. L'État ne reconnaît aucun culte, l'État n'a pas de religion établie, mais l'État n'est jamais dépourvu de spiritualité. Il est quand même revêtu d'idées, de valeurs, de rêves. Il en faut pour unir le peuple, pour lui donner un cap commun. Face aux attentats récents qui essayaient de diviser un peu la population, nous avons vu que la réponse immédiate du gouvernement était d'appuyer les valeurs de la République, les valeurs unificatrice de la République, et en particulier celle de la laïcité, qui est parfois un concept un peu nébuleux, sujet à des interprétations variées. Il s'agit pour certains, en tout cas, d'appuyer l'exclusion du fait religieux de la vie civique de la nation, de l'éducation des enfants, de la moralité publique. Nous l'avons vu il y a quelques années avec Vincent Payan et aujourd'hui avec Najat Vallaud-Belkacem, l'école républicaine est au centre de ce projet avec sa morale laïque. Et ces valeurs laïques ne sont pas dans un sens si éloignées de celles du christianisme. Il y a quand même un apport du christianisme. Mais ces valeurs ne sont pas religieusement, spirituellement neutres. Même si l'État prétend être neutre dans le domaine religieux. Comment ça? Parce que dès qu'il y a un vide, dès qu'il y a un vide moral, dès qu'on pense avoir une neutralité morale, ce vide se comble. Il se comble d'autres idées, d'autres valeurs. En fait, il se comble d'une autre foi, finalement. Cette laïcité va souvent étroitement de pair, en tout cas pour certains, avec le projet humaniste et athée. Et en cela, elle est profondément spirituelle. Et cette foi humaniste et athée se démarque de la foi chrétienne, premièrement par l'absence de Dieu, par le refus d'admettre une place au Dieu créateur, au Dieu qui a parlé. Elle met l'homme au centre, comme s'il n'y avait que lui, comme s'il n'y avait que l'homme qui décide ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et tout ça devient finalement un article de foi. Il n'y a pas de preuve scientifique pour la non-existence de Dieu, donc c'est de la spéculation, c'est un article de foi. Alors, si vous pensez que moi, en tant qu'anglais, je suis un peu dur avec notre chère République, voici un exemple tiré de la presse britannique. C'est, je crois, le 22 janvier. Une école chrétienne a été épinglée par des inspecteurs gouvernementaux et déclassée dans le classement des écoles parce que son enseignement et ses pratiques n'étaient pas conformes, non pas aux valeurs de la République, mais aux valeurs britanniques. Quelles sont ces valeurs britanniques, ces valeurs de l'État britannique? Sans cet article dans la presse, il aurait fallu enseigner plus positivement l'homosexualité. L'État britannique n'est pas neutre. Il a toute une moralité développée. C'est lui qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mauvais. Et gare à celui qui ne suit pas, qui n'enseigne pas cette moralité de l'État, cette moralité dite égalitaire. Il aurait fallu célébrer aussi des fêtes religieuses non chrétiennes, des fêtes hindouistes, musulmanes. L'État britannique voulait que cette école chrétienne célèbre ces fêtes au nom de la religion tolérante, relativiste, prônée par l'État. Et ça pour garder la paix, pour garder l'unité dans la nation. Alors ça, c'est très différent de ce qui se passe en France. Il n'y a pas de relativisme religieux dans les écoles, etc. Mais on voit dans le discours ces valeurs républicaines qui seraient au-dessus des valeurs de chaque religion, plus importantes que les valeurs du Christ, plus sacrées. Voyez comment l'État séculier britannique s'est doté de valeurs qui croient non pas être universelles, c'est peut-être plus la pensée française, mais national. Pour être un bon citoyen britannique, il faut suivre ces valeurs-là. En quelque sorte, il faut s'agenouiller devant cette image-là. Il s'agit finalement d'une religion d'origine purement humaine, basée sur sa propre autorité. Et les valeurs du Dieu trinitaire sont exclues, sacrifiées sur l'autel politique. Alors pour l'instant, le prix pour le chrétien, le prix à payer n'est pas grand. Une école classée dans le classement des écoles, c'est pas la fournaise ardente, n'est-ce pas? Mais la pente est glissante et nous voyons comment nos démocraties occidentales, avec leur spiritualité humaniste et athée, tolèrent de moins en moins des avis différents. Alors Daniel ne veut pas qu'on soit parano, mais en fait il veut qu'on soit perspicace. Il veut que nous vivions avec nos yeux grands ouverts. Certes, on peut remercier notre Dieu pour la liberté que nous avons en France. On doit prier pour notre pays. Et fort heureusement, nous ne vivons pas en Babylonie il y a 2600 ans. Nous ne sommes pas contraints de nous agenouiller devant une image. Je pense qu'on peut vivre notre foi ici de manière assez libre. Mais en même temps, cette idolâtrie d'État centrée sur l'homme et qui exclut le Dieu vivant et vrai, et insidieuse. Il me semble que les choses vont aller plutôt en s'empirant, et au fur et à mesure que cette spiritualité athée s'affirme. Donc il faut qu'on soit perspicace et vigilant. Prions pour les chrétiens qui travaillent, par exemple, comme médecins ou infirmières. Ils interviennent sur un terrain miné, où la moralité de l'État est parfois imposée. L'avortement est défendu bec et ongle comme un droit fondamental. Les débats sur l'euthanasie vont suivre. Les médecins chrétiens, les infirmières chrétiennes, on devrait parfois prendre des choix difficiles, prendre des décisions difficiles pour ne pas s'agenouiller devant cette image de la moralité de l'État. Prions également pour nos instituteurs, enseignants, professeurs, ceux qui sont chrétiens et qui veulent rester fidèles à l'Éternel. Parce que de manière ultime, ils doivent servir celui dont la morale est vraiment universelle. Le Seigneur dont les valeurs morales, sexuelles, religieuses, éthiques surpassent celles de la République. Alors on pourrait continuer et réfléchir à d'autres domaines, d'autres métiers. C'est jamais facile d'être perspicace parce que lorsqu'on vit dans une culture, on ne voit que cette culture-là. Et s'il y a des changements, parfois on les voit pas parce qu'on est entouré, on est dans cette culture, c'est comme un bocal, on est un peu comme des poissons dans un bocal et l'eau c'est la culture. On ne voit pas les changements, on ne voit pas la température monter. Cette idolâtrie d'État peut être insidieuse. En plus, je pense que la culture peut nous rendre un peu aveugle, un peu docile. C'est un peu comme la musique de Nebuchadnezzar. Notre État nous fait du bien à plein d'égards. On a plein de services d'État gratuits. Je pense qu'on a beaucoup de sécurité dans notre pays. Nous vivons en paix pour la plupart. Et avec tant de bonnes choses, c'est jamais facile de voir clair, de faire la part des choses. Et donc, c'est jamais facile de voir où il faut dire stop. Non, ça je fais pas. Ça, c'est le pas de trop. Mais comme on voit, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils ont vu clair. Ce livre de Daniel nous aide à ne pas sombrer dans la critique ou l'amertume, mais il nous aide à vivre positivement, joyeusement, le cantique de l'Éternel en terre étrangère. On va passer à notre deuxième point ce matin. Soyons fidèles, car notre Dieu peut nous délivrer. À partir du verset 8, nous voyons la réaction de quelques Babyloniens, probablement des astrologues ou des magiciens, en tout cas probablement des hommes religieux. Et on voit qu'ils sont très, très clairement motivés par la jalousie. Ils auraient aimé avoir les places que les amis de Daniel avaient. Comment est-ce que le roi a pu donner ces places élevées à ces juifs? Ils sont jaloux. Et donc ils saisissent l'occasion pour les dénoncer. C'est vraiment une histoire très humaine. Verset 12. Or, il y a des juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Est-ce que vous voyez comment ces hommes manipulent un peu l'orgueil du roi? Ils sont astucieux. Par contre, ils voient très bien ce qui s'est passé. Ils voient les enjeux. Ils voient bien qu'il s'agit de l'adoration. Et il voit bien la fidélité des amis de Daniel. En quelque sorte, il donne un beau témoignage. Il rend témoignage un peu à la fidélité de ces hommes. Ça, c'est vraiment bien si on avait des amis ou des opposants même, qui pouvaient dire même en s'opposant à nous qu'ils sont fidèles, vraiment fidèles à leur Dieu. Alors, toujours vif, d'une manière qui dévoile sa faiblesse, Nebuchadnezzar est furax. Il est fait venir devant lui. Et l'entretien qui va suivre révèle vraiment le cœur de ce chapitre. Nebuchadnezzar répète ses menaces. Il faut lui obéir, sinon c'est la mort. Et puis, il ajoute, à la fin du verset 15, et ça, Daniel veut vraiment que nous entendions ça, à la fin du verset 15, « Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ?» Quel orgueil! Pour qui est-ce qu'il se prend? En fait, il se croit vraiment, vraiment fort. Plus fort que n'importe quel dieu. On dit que le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et on voit ici que ce pouvoir est vraiment aveuglant. abattissant même. La réponse de Shadrach, Meshach et Abednego révèle leur conviction profonde et nous montre de manière on ne peut plus claire ce que ça veut dire d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. En fait, ces hommes, ces amis de Daniel ne cherchent pas à se défendre, ils ne s'excusent pas. Non, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils assument ce qu'ils ont fait, avec une bonne conscience. Et en cela, vraiment, ces hommes sont exemplaires. Ils nous donnent un modèle à suivre. Ils n'essaient pas de se justifier ou d'amoindrir la colère du roi. Ils assument ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils disent au verset 17 et 18, en fait, ces versets sont vraiment le cœur de ce chapitre. Verset 17. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Alors, la syntaxe de ces versets n'est pas simple, mais le message est vraiment limpide. Il s'agit d'une belle confession de foi dans l'épreuve. Et cette confession nous montre la conviction profonde qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout pouvoir humain, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa philosophie païenne, religieuse, athée, laïque. Nous savons en effet que Dieu est en train de mettre toutes choses, nous en tant que chrétiens, sous les pieds de Jésus-Christ. On sait, comme ses amis de Daniel, qu'il y a un Dieu qui règne au ciel. On voit aussi que la confession de foi est nuancée. Ces hommes ne sont pas des manipulateurs de Dieu. Ils ne disent pas que Dieu va forcément faire ce qu'il souhaite qu'il fasse. Et c'est vrai, il faut se méfier d'enseignants chrétiens qui ont cette théologie où par la force de nos paroles à nous, on peut déclarer par la foi ce que Dieu va faire. Non, il y a une humilité dans la confession de foi de ces amis. Ils savent que Dieu est Dieu. Ils savent que Dieu est libre. Que Dieu fera ce qu'il voudra en son temps. Et ce n'est pas à nous de lui donner des ordres. En même temps, ils savent que Dieu est bien capable de les délivrer. Et que s'ils souhaitent le faire, personne, aucun gouvernement, ne peut le contrecarrer. Parce que c'est lui qui est vraiment souverain. Dans l'épreuve, nous pouvons pas dit à l'avance que Dieu va nous délivrer de telle ou telle façon. Si par fidélité un médecin chrétien devait perdre son emploi, on ne peut pas dire que Dieu va forcément lui restituer son emploi. Si par fidélité à Jésus-Christ, un employé est renvoyé parce qu'il a témoigné de Jésus-Christ à ses collègues, on ne peut pas dire que Dieu va forcément lui donner un meilleur emploi ailleurs. Ce qui a été le cas pour Shadrach, Meshach et Abednego, on le voit à la fin du passage. Si par fidélité à Jésus-Christ, un maire chrétien ne peut plus en bonne conscience être maire, Dieu ne lui promet pas un autre poste. Non, parce que Dieu est libre. Il fera ce qu'il voudra. Mais ce qu'il voudra est vraiment toujours pour le meilleur. Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas sûrs de si Dieu allait les délivrer de la fournaise ardente. Mais ce dont ils étaient sûrs, par contre, c'est que Dieu est Dieu. Et qu'il faut honorer, adorer le seul vrai Dieu. Ils voulaient vraiment rester fidèles à Dieu. C'est le premier commandement des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ça, c'est une conviction chrétienne très profonde. Nous voulons rester fidèles à Dieu coûte que coûte. Nous voulons rester fidèles à Jésus coûte que coûte. Et en fait, cette conviction est ancrée dans nos cœurs parce que nous avons la conviction que ce Dieu, qui est le seul Dieu, est un Dieu digne de louange. Parce qu'il est un Dieu, on l'a vu en Jésus, il est un Dieu bienveillant, fidèle, aimant et juste. Nous ne savons pas s'il va nous délivrer de chaque épreuve ici-bas. Mais nous savons que tout comme Jésus est passé par l'épreuve, la croix, où il fut mis à mort par des hommes profondément idolâtres, profondément hostiles à Dieu, si nous nous mettons notre confiance en Jésus, si nous croyons les promesses du Père qu'il a ressuscité, nous serons nous aussi délivrés avec Jésus, c'est-à-dire ressuscités avec Jésus. Nous sortirons avec Jésus de la mort, cet ennemi ultime. La mort n'aura pas le dernier mot sur nous. La fournaise ardente n'aura pas le dernier mot sur nous. Et le jour de la résurrection de Jésus-Christ est la preuve finale que Dieu sera toujours avec son peuple et qu'il lui donnera avec Jésus cette délivrance finale. Et cette confiance-là est sûrement celle de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est pour ça que c'est hors de question pour eux de s'agenouiller devant cette idole ridicule de fabrication humaine. Non, il y a un Dieu qui est digne d'adoration, qui délivre son peuple en son temps. Alors, comme nous voyons dans les versets suivants, il a fait de manière littérale pour Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans cette fournaise ardente, et de manière miraculeuse, Dieu les a préservés. Il les a sortis de là. Et Dieu, parce qu'il est souverain, parce qu'il humilie les orgueilleux, il élève les humbles, a montré quelque chose de très particulier à Nebuchadnezzar. Il lui a montré qu'il demeure avec son peuple, que c'est lui le seul vrai Dieu qui peut délivrer son peuple. Et c'est le verset 25 qui nous explique. Il reprit, « Eh bien, j'aperçois, c'est Nebuchadnezzar qui parle, « Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le quatrième ressemble à un fils des dieux. » Qui est ce quatrième homme? Est-ce un ange? Est-ce Jésus-Christ avant l'heure? Alors, je ne sais pas. Mais Daniel veut nous montrer que Dieu ne quitte, n'abandonne jamais son peuple. Il honore ceux qui l'honorent. Si nous allons rester fidèles à Dieu comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous avons besoin de connaître notre Dieu. Nous avons besoin de connaître sa grandeur. Nous avons besoin de connaître de plus en plus sa bonté. Et c'est cette connaissance de lui, cette connaissance que nous avons en et par Jésus-Christ, qui nous aide à voir clair, à voir les contrefaçons ridicules. Et cette connaissance de lui nous fortifie, nous donne des convictions pour rester fidèles à Dieu. Pour terminer, voici quelques versets de Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Notre bon Père Céleste, merci de ce que tu es là et que tu règnes. Que tu es le vrai roi, le vrai président, la vraie puissance dans cet univers. Et tu n'es pas absent. Père, merci pour ceux qui nous gouvernent sur cette terre. Merci pour notre pays. Merci pour notre gouvernement. Et nous allons te demander de lui accorder beaucoup de sagesse, gouverner ce pays de manière paisible, d'une manière juste, pour que nous puissions aussi exercer notre foi librement, en bonne conscience. Nous voulons te confier
nos pays occidentaux. Nous, on se demandait de nous préserver, mais en même temps, même dans les épreuves, de nous aider en tant que peuple de Dieu, de te rester fidèle, quoi qu'il arrive. Donne-nous ces convictions qui animaient les cœurs des amis de Daniel. Donne-nous de voir de manière claire que toi, tu règnes, que tu es souverain, et que tu nous délivres, et que tu l'as déjà fait en Jésus-Christ. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.